Stéthoscope, l'émission qui prendra votre pouls. Stéthoscope, l'émission à l'écoute de votre santé. Médecins, spécialistes répondront en direct à vos questions.
Pouvons mettre fin à la tuberculose, c'est le slogan retenu cette année par l'OMS à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose qui reste, rappelons-le, l'une des maladies infectieuses qui entraîne le plus de décès dans le monde et pourtant une pathologie évitable et curable. Juste un chiffre à retenir pour vous mettre dans le bain. 10 millions de personnes sont infectées par la maladie et plus d'un million de décès par an. Chez nous, en Algérie, c'est vrai que la tuberculose a nettement régressé, mais reste quand même un problème de santé publique. 18 000 cas de tuberculose, toutes catégories confondues, enregistrés par an en Algérie. L'urgence est de travailler, justement, pourquoi pas aussi sur les recommandations de l'OMS, qui se fixe d'ailleurs comme objectif, un objectif certes osé, mais possible, pourquoi pas, puisqu'elle parle aujourd'hui d'éradiquer la maladie d'ici 2035. Alors, quelles sont les actions entreprises aujourd'hui pour justement atteindre cet objectif chez nous? Comment réduire les chiffres par une meilleure prise en charge? Peut-on parler de relâchement pendant une période? On en parlera tout de suite avec nos invités. Je reçois en direct dans les studios d'Alger Chaîne 3, docteur Samia Hamadi, elle est directrice de la prévention au ministère de la Santé. Nous l'avons ramenée ce matin. Bien qu'elle rentre justement d'une rencontre de la célébration de la Journée mondiale de la tuberculose à Oran, elle a bien voulu venir, on a insisté, elle ne peut pas dire non à Stéthoscope. Bonjour docteur.
Bonjour Célia, merci pour l'invitation et merci pour cette émission qui est très importante pour nous.
Merci docteur d'être avec nous, merci justement aux autres personnes qui nous accompagnent aujourd'hui dans cette émission. Je nommerai le docteur Brahim Djilloul Essia qui est pneumophtysiologue. Elle est avec nous en direct. Bonjour docteur.
Bonjour Madame Célia Labou, merci pour cette invitation.
Vous êtes au
Alors je suis pneumologue à l'EPSP Sidi Mohamed Bouchnafa, donc en santé publique.
Très bien, vous êtes avec nous en direct, avec nous également dans cette émission, docteur Fatiha Hamoutan, elle est endocrino, elle vient de la wilaya de Ain Defla, elle est installée, c'est une habituée de l'émission, elle participe souvent avec nous. Docteur Hamoutan, bonjour.
Bonjour Célia, bonjour les invités et puis bonjour chers auditeurs.
Merci de répondre à l'invitation, cette émission, à la réalisation. Aujourd'hui, exceptionnellement, Jawida Zeka. Jawida est avec nous. Klimo à la console technique, Tahar à la régie d'antenne. Célia Labou pour vous accompagner jusqu'à 11h.
Stéthoscope, l'émission qui prendra votre l'émission à l'écoute de votre santé.
Yeah. Alors réveillez-vous, les 10h07 sur 8 minutes sur Alger Chaîne 3. Et oui, nous parlons aujourd'hui de la tuberculose. La journée mondiale, c'était le 28 mars, mais on va aujourd'hui en parler puisqu'il y a quelques jours seulement. Allez, on va juste faire ouvrir une petite parenthèse pour dire pourquoi le 28 mars. Hein. C'est pas fortuit puisque elle coïncide avec la découverte en 1882 par Robert Koch le 24 mars. Hein. C'est pas le 28, désolé pour. Alors le 24 par Robert Koch du bacille donc tuberculeux, donc on appelle d'ailleurs le bacille de Koch. Hein. Donc ça a été découvert par ce monsieur qui a eu le prix, il a été prix Nobel de médecine en 1905 et grâce à lui donc. On a découvert la tuberculose et grâce à lui que la recherche sur la tuberculose donc se sont effectuées. Hein. Donc c'est juste pour ouvrir cette petite parenthèse pour dire c'est le fameux donc vaccin, le BCG, qu'on donne justement à la naissance à l'enfant, n'est-ce pas, docteur Hamedi? On va commencer par vous hein, pour dire aujourd'hui que l'Algérie est. Il faut rendre hommage aussi à ceux qui ont mis les premières, on va dire, pierres en fait pour lutter contre la tuberculose. Vous avez Chollet, Feu Chollet, professeur Feu Chollet et Feu l'Arbaoui aussi qui ont franchement mis les dispositions nécessaires pour lutter contre cette maladie. Et l'Algérie a été aussi prise comme exemple par beaucoup de pays. Ils nous imitaient un petit peu dans cette lutte contre la tuberculose et bien d'autres maladies concernant la vaccination. On était leader, hein, il faut le dire, docteur Hamadi, n'est-ce pas? On va juste rappeler l'importance. Oui.
Merci beaucoup. Merci Cilia. En fait, tu viens de le rappeler pour dire que le 24, pourquoi nous célébrons cette journée, c'est pour aussi, c'est une journée, c'est une occasion pour nous pour sensibiliser, informer et surtout faire connaître la maladie et de se dire, cette maladie, elle est toujours là. Et quels sont les moyens, qu'est-ce qu'on doit faire pour éliminer et aussi pour sensibiliser les autorités pour dire,
c'est un appel.
C'est un appel pour dire qu'ensemble, nous pourrons éliminer la maladie puisque nous sommes passés d'une situation, j'allais dire dramatique, hein, aux alentours de 314 cas pour 100 000 habitants, alors que maintenant, on est à 8,6. Et cela, c'est grâce à tous les efforts déployés par les autorités et par nos experts. À cette occasion, je rends hommage à nos aînés, au professeur Chollet, Feu Chollet, et professeur Larbaoui. Et je rends hommage à ceux aussi qui sont encore vivants et qui ont beaucoup apporté. C'est vrai que l'Algérie était le leader, j'allais dire, en matière de contrôle et de lutte contre la tuberculose. Et par la mise en place de notre premier programme en 1966, avec la généralisation de la vaccination BCG à la naissance.
Très bien, c'est juste après 1965, donc après l'indépendance. On va justement revenir un petit peu sur la situation actuelle, puisque aujourd'hui, il faut dire que la maladie, elle est là. C'est vrai qu'il y avait un programme ambitieux après l'indépendance. Beaucoup de choses ont été faites justement pour faire face à la maladie. C'était un peu, c'était une situation, il faut dire, très précaire, qui favorisait un petit peu cette pathologie, la propagation de cette pathologie, la promiscuité, la misère, la pauvreté, etc. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Mais il faut dire qu'il y a eu un relâchement après. On a vécu quand même la décennie noire il y avait un relâchement par rapport à la vaccination. Et aujourd'hui, on reprend un petit peu le dessus. Et j'espère que ça va se faire. Vous êtes pneumophysiologue, docteur Brahim Djelloul. Vous êtes à l'EPSP de Bouchnefa. C'est bien puisque vous êtes bien situé, donc vous recevez un peu. Est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on voit aujourd'hui les cas de tuberculose?
Coordinatrice du Wilaya, longtemps.
Oui. Je suis responsable du service de contrôle de la tuberculose de le PSP Bouchnefa. Oui. Et j'ai été coordinatrice de Wilaya de la lutte antituberculeuse de 2022 à fin 2025.
Donc et vous avez un recul, vous avez oui, j'ai un peu de recul par rapport.
J'ai assez de recul et puis j'ai aussi eu, grâce à mon poste de coordination, une vue plutôt d'ensemble sur la situation. Alors, la tuberculose, oui, évidemment, on a encore des cas de tuberculose, mais ça, c'est pas spécifique à l'Algérie, puisque, comme le disait Madame Hammadi, on part d'une incidence de plus de 300 cas pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, on est à 38,6 cas pour 100 000 habitants. Cependant, notre réussite, c'était de réduire l'incidence des cas de tuberculose pulmonaire à microscopie positive.
Oui.
Pourquoi cette cible? Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est la forme de tuberculose ou les patients qui sont le vecteur de cette maladie. Donc, les premières cibles dans la lutte antituberculeuse à l'échelle mondiale, c'était de capter ces patients et de les traiter efficacement. C'était dans le cadre de la stratégie DOTS dès les années 90. Donc, pour avoir un impact sur cette incidence. Et ensuite, la lutte antituberculose a progressé. Aujourd'hui, on parle de la captation des cas de tuberculose latente pour essayer de couper à la racine cette maladie et éviter sa progression.
Très bien. Quand on parle de tuberculose latente, c'est il n'y a pas de symptômes. Hein. C'est pour expliquer un petit peu aux auditeurs. Et peut-être il faut comment penser à la tuberculose. Comment penser que cette personne qui est en face de nous, qui est dans notre entourage, est en train de souffrir de la maladie. En fait, je suppose que les signes sont assez évocateurs, docteur.
Alors oui, tout médecin, même les médecins généralistes et d'autres spécialistes, doivent penser à la tuberculose. Alors vous avez bien évidemment la tuberculose pulmonaire qui a des symptômes relativement évidents qui sont la toux chronique avec des expectorations, par exemple une grippe ou une bronchite qui dure plus de 15 jours, il ne faut pas hésiter à aller consulter un médecin. Le médecin va devoir faire une radiographie du thorax. Cette toux avec expectoration, elle peut être accompagnée d'émissions de sang qu'on appelle une hémoptysie. Il peut y avoir parallèlement des signes généraux, c'est-à-dire une fièvre. La fièvre est plutôt nocturne. Ce n'est pas une fièvre très importante, c'est un fébricule. Il peut y avoir des sueurs nocturnes qui sont associées. Avec le temps, on va avoir une altération d'état général, un amaigrissement et une anorexie, donc la perte de l'appétit. Après, vous avez les autres tuberculoses extrapulmonaires dont les signes sont spécifiques de chaque organe. Vous pouvez avoir une tuberculose intestinale, une tuberculose
des os,
une tuberculose méningée,
des reins.
La tuberculose rénale, tout organe.
Du cerveau aussi, hein.
Oui, cérébro-méningé, tout organe de l'organisme peut être touché par cette maladie.
C'est vrai qu'on n'y pense pas, docteur. Hein. On ne pense pas qu'une tuberculose peut atteindre d'autres.
Les tuberculoses extrapulmonaires sont de diagnostic relativement difficile parce que les symptômes ne sont pas spécifiques à la maladie. La maladie ou l'atteinte de l'organe ne survient pas forcément dans les suites immédiates de l'infection ou le contact avec le sujet malade. Donc, c'est plusieurs mois, voire plusieurs années plus tard. Et en général, c'est un diagnostic d'élimination. Quand on a éliminé d'autres maladies spécifiques de cet organe, on va pouvoir éventuellement pousser des explorations, faire des prélèvements lorsque cela est possible pour confirmer. Et ça aussi, c'est un axe de lutte dans la lutte antituberculeuse, c'est d'essayer au maximum, quand cela est possible, de confirmer la tuberculose extrapulmonaire pour ne pas traiter autre chose qui est taxée de tuberculose.
Oui, justement, docteur, moi, je pense qu'il y a, si vous voulez, si je peux appeler ça, errance du diagnostic, parfois. Oui. On peut passer à côté, même des médecins peuvent passer à côté, parce qu'on ne pense pas à une tuberculose extrapulmonaire, c'est-à-dire qui ne concerne pas les poumons. Même le sujet lui-même, le patient, ne sait pas toujours qu'il peut développer ce type de tuberculose. Donc, on ne pense pas à une tuberculose. Le danger est le même que ça peut être. Est-ce que ça peut se compliquer quand il en
Bien évidemment. En fait, il y a des localisations extrapulmonaires qui sont majeures et sévères et qui peuvent être mortelles. Si vous avez une méningite tuberculeuse, une tuberculose cérébrale, la péricardite tuberculeuse qui va se compliquer par la constriction et donner une insuffisance cardiaque. Vous en avez parlé tout à l'heure, la tuberculose de la colonne vertébrale qui peut entraîner des paralysies. En fait, la tuberculose du rein qui donne une insuffisance rénale, bien sûr, c'est des atteintes et des localisations qui sont graves. C'est pour ça qu'il faut y penser, surtout, malgré tout, même si on a diminué l'incidence, mais on reste quand même un pays où la population est toujours en contact avec le bacille de Krohr. Et quand on sait que la tuberculose extrapulmonaire est une tuberculose souvent de résurgence, c'est-à-dire que souvent elle apparaît chez des personnes âgées dont l'immunité a diminué. Oui. Et le BK qui était dormant dans cet organe va se remettre à se multiplier et provoquer la maladie.
L'étiologie, la cause, docteur, de la tuberculose extrapulmonaire, parce que là, c'est-à-dire la tuberculose pulmonaire, on peut la reconnaître, les signes sont assez évocateurs, mais quand on parle de tuberculose extrapulmonaire, on n'y pense pas. Si on a des douleurs au niveau des articulations, si on a des problèmes au niveau du rein, etc., on ne pense pas forcément à ce type de pathologie qui peut être grave.
En fait, il faut comprendre l'histoire du BK, enfin son voyage dans l'organisme. Donc le BK est contracté par la personne non malade par le biais de l'air. C'est aujourd'hui tout le monde peut comprendre puisqu'on a compris comment se contracte le Covid. Donc la tuberculose c'est exactement la même chose. Oui. On a un cas de tuberculose pulmonaire qui est donc bacillifère. Il va tousser, il va cracher, il va mettre des bacilles de Krohr dans l'air. La personne qui est en face de lui et qui est proche de lui, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un contact proche, c'est pas une personne qu'on voit de loin qui va pouvoir nous contaminer. Le contact doit être proche et suffisamment durable. La personne donc va inhaler ses BK et les BK vont bien sûr par voie respiratoire aller se nicher d'abord dans le poumon. Ensuite, il y a une espèce de bataille entre le BK et la quantité de BK et l'immunité de la personne. Si l'immunité de la personne est suffisamment forte, elle va pouvoir bloquer ce BK, mais par contre, ça va mettre en branle tous les systèmes le système immunitaire qui, par le biais des cellules immunitaires et du sang, va faire voyager ce BK dans l'organisme. Et ce BK a la propriété de pouvoir aller se nicher dans un organe et rester à l'état dormant pendant des années. Et ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, à l'occasion d'une baisse de l'immunité. Alors cette baisse de l'immunité, elle peut être liée par exemple à l'âge, c'est les âges extrêmes, le tout petit
les
enfant
enfants et les personnes âgées.
Oui. Les maladies qui font baisser l'immunité comme le VIH, les maladies auto-immunes, les traitements qui font baisser l'immunité. Notre ami diabétologue, on sait que le diabète fait baisser l'immunité. Et puis il y a certaines attitudes comme le tabagisme, la toxicomanie. Ça fait baisser l'immunité locale et générale. À cette occasion, baisse de l'immunité, ce BK va se mettre à se remultiplier et à causer l'atteinte de l'organe.
Oui, vous nous tendez une perche justement, docteur Brahim Djilloul, pour faire une émission sur l'immunité. C'est très important puisque l'immunité contrôle un petit peu notre corps. Et quand on a une baisse d'immunité, franchement, on peut recevoir toutes les pathologies, malheureusement. Hein. On peut être fragile. Et quand il y a une bonne immunité, c'est comme une armée qui fait face, justement, à une attaque, à une invasion. Oui, docteur.
J'ai oublié, dans la baisse de l'immunité, aujourd'hui, on utilise beaucoup de médicaments qui font baisser l'immunité. On a les corticoïdes, dont on ne peut pas se passer, malheureusement, dans certaines pathologies. Et les immunosuppresseurs, notamment les
pour les personnes personnes atteintes de cancer. Oui.
Cancer et maladies auto-immunes.
Auto-immunes, voilà. Oui, justement, ça mérite.
Microbiote.
Oui, et le microbiote. Vous savez que l'intestin, c'est le deuxième cerveau. On doit faire une émission sur le microbiote parce que c'est important. On dit bien que l'intestin est le deuxième cerveau. Et quand l'intestin est touché, quand le microbiote est touché, et il peut ouvrir, justement, c'est une porte pour beaucoup de maladies, notamment auto-immunes et les maladies rares, justement, où il n'y a pas de programme de prise en charge, malheureusement, de par le monde. Hein. Vous savez qu'il y a des maladies rares aujourd'hui dont on ne connaît pas l'origine, donc on ne peut pas, justement. Mais il y a quand même un effort qui se fait pour, justement, prendre en charge quelques maladies rares qui sont aujourd'hui répertorié chez nous. Pour toutes vos questions, nous vous avons pas oublié, chers auditeurs, le 021 48 15 15, le 021 48 15 15. Vous pouvez d'ores et déjà nous contacter pour poser vos questions. Les spécialistes ici présents feront un plaisir de répondre à vos questions rapidement avec docteur justement Hamouten Fatiha, qui est endocrino, qui en parlait justement des populations à risque. On parlait du diabète qui pouvait justement faire descendre l'immunité. Et vous avez certainement remarqué que vous avez certainement reçu des patients et des patientes qui ont développé une tuberculose parce qu'ils sont diabétiques aussi.
Alors, dans le monde, c'est sur 4 tuberculeux, il y a un diabétique. Soit un diabétique, caché, c'est-à-dire qui n'est pas diagnostiqué, soit un prédiabète qui va donc développer un diabète. Et ce diabète, justement, fait qu'il y a une prolifération microbienne, parce que l'hyperglycémie affaiblit le système immunitaire. Et donc, le diabétique fait directement pas une tuberculose latente. Je suis venue apprendre aujourd'hui par mes deux consoeurs. Donc, le diabétique fait directement une tuberculose. Il ne fait pas la latente. Rapidement, il fait l'active.
Maladie.
C'est ça.
Voilà, la maladie.
Et le problème dans le diabète, c'est que la symptomatologie, on la retrouve chez le diabétique. C'est-à-dire le fait d'avoir une toux chronique. C'est n'importe quelle infection pulmonaire peut donner ça chez le diabétique, surtout s'il est mal équilibré. L'amaigrissement, on peut le voir chez le diabétique, certaines, ils font des chutes comme ça. Les sueurs profuses nocturnes, la fièvre nocturne, ça peut être l'apnée du sommeil, ça peut être les hypoglycémies, ça peut être... Donc, les signes, vous voyez, le diabétique, c'est difficile de diagnostiquer ça chez le diabétique. Voilà. Et la difficulté de la tuberculose chez le diabétique, c'est qu'ils font en général des traitements, plus longs. Plus long, ça va à 9 mois.
Voilà, non, c'est ça la partie. Excusez-moi.
6 mois maintenant, oui.
Excusez-moi, mais le traitement est standardisé, quel que soit le type de patient, terrain.
Non, ça c'est vous la spécialiste.
Oui, non.
Je disais, ça veut dire que en général, quand les tuberculeux mal équilibrés, tout ça, ils font plutôt...
Alors, en tant que pneumologue, nous, on reçoit bien évidemment des tuberculeux sur un diabète, comme vous dites, soit connu, soit décelé lors du bilan initial. Et on travaille en collaboration avec l'endocrino en disant aux patients que le diabète va aggraver votre maladie si vous ne prenez pas en charge, ou en tout cas, il va rendre difficile la prise en charge, et votre tuberculose est en train de déséquilibrer votre diabète. Donc la prise en charge doit être conjointe et afin d'avoir un traitement optimal et une réponse optimale.
Moi, je voulais justement préciser une chose dans cette émission. Avant, quand on parlait de tuberculose, tuberculose égale mort, décès. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut le dire, il faut rassurer aujourd'hui que la prise en charge se fait très bien chez nous. Et avant, c'est vrai que quand on parlait de tuberculose, c'était une maladie, dont on avait très peur et on s'éloignait des personnes qui étaient atteintes de tuberculose, comme si c'était comme la gale, comme beaucoup de maladies comme ça qui nous faisaient peur. Mais en fait, aujourd'hui, elle est tout à fait maîtrisée. Il y a un protocole de prise en charge. Il y a un traitement qui se fait, je crois, sur 6 mois, puisque l'OMS a fixé, et je pense que c'est international, docteur.
Oui, en fait, le protocole, il est standardisé et fixé. par le manuel de la tuberculose et rectifié en 2024 par une instruction ministérielle. Donc aujourd'hui, la tuberculose, dans la plupart de ses formes, c'est 6 mois, c'est le même schéma.
Tout à fait.
Il y a des cas particuliers. Dans la tuberculose ostéo-articulaire, c'est 9 mois. La méningée et la tuberculose vertébrale, c'est 12 mois. Ce sont les deux cas, les trois cas particuliers où on peut prolonger le traitement. Après, effectivement, alors nous, dans le message, quand on reçoit le patient, bien sûr, tuberculeux, lui et son accompagnant, c'est toujours la panique. C'est une tuberculose, c'est la tuberculose. Oui. Ça rappelle, comme vous dites, les années noires où les gens étaient enterrés dans des fosses communes parce qu'ils étaient atteints de tuberculose. Mais depuis l'avènement, bien évidemment, de l'antibiothérapie, la streptomycine, notamment, premier antituberculeux, et par les schémas standardisés, bien évidemment, on ne meurt de tuberculose que dans des cas très particuliers parce que la personne est extrêmement immunodéprimée ou alors... certaines comorbidités peuvent amener le patient à décéder, mais dans notre prise en charge au quotidien, on essaye de prendre le patient dans sa globalité, c'est-à-dire que la prise en charge commence par un interrogatoire policier sur toutes les maladies qui accompagnent cette tuberculose, et on essaye de faire prendre en charge tous ces paramètres pour donner le plus de chances pour que le patient puisse s'en sortir avec le moins de séquelles possibles.
Très bien. Et les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui peuvent nous appeler au 021 48 15 15, doivent se poser la question, oh mon Dieu, la tuberculose existe encore, on peut être touché, on peut ne pas être diagnostiqué à temps, etc. Donc, il y a une prévention quand même, docteur Brahim Djiloul. Peut-on parler de prévention dans le cas de la tuberculose? Comment ne pas l'attraper? Moi, je pense que les gestes barrières, elles sont toujours d'actualité.
Les éléments de prévention, le premier élément, c'est bien sûr la vaccination qui permet de protéger les enfants, notamment les enfants, des tuberculoses graves.
Des formes graves.
Oui, la méningite.
Ça ne protège pas de la tuberculose,
ça protège sur une durée limitée dans le temps. Et ça ne protège pas contre toutes les formes de tuberculose, malheureusement. Mais aujourd'hui, il faut savoir que dans le monde, il y a autour de 15 vaccins candidats qui peut-être qu'un jour permettront de protéger.
Très bien. Je vais y revenir. Je vais revenir avec vous dans un petit moment, docteur, mesdames, avec nous dans les studios. On va prendre un appel de Bacha qui nous contacte depuis Alger. Bacha, bonjour.
Bonjour, docteur.
Célia, je suis pas docteur, je suis journaliste.
Ah bah, c'est la même chose.
Ah oui.
Voilà, j'ai eu de la peine tout d'abord pour vous avoir en ligne. Enfin, voilà, oui. Moi je suis déjà grand, je suis grand-mère.
Oui.
J'ai 75 ans et j'ai eu la tuberculose quand j'avais 5 ans.
Oui. Oui.
Alors j'ai été opérée par un chirurgien au temps de, enfin il y a disons vers 50, en 1955.
Oui, même ça remonte.
Alors j'avais une tuberculose. Et mes parents ont dit qu'il fallait que je sois opérée.
Oui.
J'ai été opérée par un chirurgien, qui est maintenant bien sûr décédé. Mmh. Il voulait m'enlever le ganglion. Ce n'était pas un kyste, mais un ganglion, c'est ce qu'il a dit à mes parents. Oui. Alors qu'est-ce qu'il a fait, le chirurgien? Il m'a enlevé la moitié du poumon. Tout s'est très bien passé. Oui. J'ai grandi. J'ai été bien sûr à l'école un petit peu en retard parce qu'il fallait faire des contrôles et puis il fallait que je me déplace. Il a dit qu'il fallait l'envoyer à l'étranger pour pouvoir récupérer son poumon.
Mmh.
Bien. Alors mes parents m'ont envoyé à l'étranger. Effectivement, mon poumon s'est développé. J'ai pu revenir en Algérie et tout s'est bien très bien passé. Enfin, j'avais mon poumon entier et maintenant je suis grand-mère, je suis toujours vivante, alhamdoulilah. Et voilà, maintenant que je suis grand-mère, je faisais souvent des bronchites.
Oui, il y a les séquelles là peut-être, non?
C'est exactement.
Oui,
quand j'ai
normal,
vu des médecins, l'hôpital Mustapha et tout ça, on m'a dit que j'ai fait des examens et tout ça, on m'a dit que c'est une DDB.
Oui.
Une dilatation des bronches.
Oui, c'est normal. Oui.
Voilà, je vis avec, mais tout se passe
mais
bien.
Oui, ça se passe
je suis
bien, oui.
Un pneumologue qui me suit. Et... Enfin, maintenant, je vis avec ma DDB, mais un peu difficilement.
Oui, mais voilà, vous êtes sujette justement quand il fait, quand vous tombez malade, la toux est importante peut-être. Vous avez un peu mal au poumon.
Oui.
Mais je pense rien de grave.
Je prends aucun médicament, aucun traitement.
Oui. C'est une dilatation.
Une fois que je suis malade, je vais voir mon pneumologue. On me donne un antibiotique, mais des fois, ça ne marche pas.
Oui.
Des fois, surtout quand c'est le générique, je ne guéris pas.
Mais là, vous vous portez bien quand même.
Plus ou moins. Il y a des hauts et des bas, pas tellement.
Oui, c'est séquelles, Il y a des séquelles, c'est normal.
Là, séquelles, exactement.
Ah ben oui, vous avez fait...
J'ai été suivie par des professeurs à l'hôpital Mustapha, à Terme Saha. Une tuberculose.
Oui.
Parce que quand j'étais petite, je prenais traitement. Je me rappelle des médicaments que je prenais. Je prenais du Tyroactucil et du Rumifon. C'est là qu'ils ont su que c'était la tuberculose. Tellement que j'ai pris ça pendant des années, je me suis rappelé, je leur ai dit que voilà les médicaments que je prends. Alors là, ils ont su que c'était une tuberculose.
Oui.
Voilà, je vis avec.
Alhamdoulilah, vous avez 75 ans, vous avez quand même survécu à la tuberculose. Hein. C'est quand même quelque chose.
C'était un chirurgien français qui m'a opéré.
Oui.
Je me rappelle même de son nom.
En tout cas, on a de bons chirurgiens aussi, bons médecins aussi, et on a une bonne équipe de médecins qui opèrent toujours et qui font de l'excellent travail. Ils font le rendre hommage quand même aux blouses blanches. Yatek Saha, merci pour votre témoignage. Merci à vous, chers auditeurs. Merci de nous suivre de 10h à 11h en direct sur Alger Chaîne 3. C'est Stéthoscope. Vous pouvez nous contacter au 021 48 15 15. Nous avons au bout du fille Samia qui nous contacte de Burj Bouareledj. Samia, bonjour.
Bonjour madame.
Ça va,
bonjour
Samia.
Bonjour à vous et à vos invités. Merci pour cette émission.
Merci à vous. Merci Samia de nous rester fidèles. Merci, posez votre question. Vous êtes
bonjour
en direct.
Oui. Voilà, je vais être bref. J'ai un fils qui est asthmatique. Je ne sais pas si hors sujet ou non.
Oui, c'est pas vraiment le... Moi, on peut vous répondre, allez, on est gentil,
oui,
on peut vous répondre, puisque la pneumophtisie, on va profiter de sa présence aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il en est?
Voilà, il est asthmatique et il est fumeur, malheureusement. J'ai bien peur que...
Qui c'est qui a le kyste? Qui c'est qui a le kyste? Dites-moi, qui c'est qui a le kyste?
Non, il est fumeur.
Non.
D'accord.
Allô.
Ah, vous avez été fumeuse.
Non, son fils.
Ah, c'est votre fils.
Ah, c'est mon fils. Non, pas
d'accord,
moi. Mon
d'accord.
fils, qui est asthmatique, est un fumeur.
Ouh là là, oui.
Vous voyez.
Oui.
Et malheureusement, il n'arrivait pas à stopper les cigarettes. J'ai bien peur que ça lui provoque cette maladie encore, la tuberculose.
Oui,
est-ce que c'est possible ou non?
Très bien, on va vous répondre. Restez
d'accord
avec nous, on va vous répondre dans un petit moment, le temps. On va aller à Shlef pour avoir Shérif au bout du fil. Shérif,
oh,
bonjour. Comment allez-vous, Eid Mubarak, Shérif? Ça va, vous allez bien? Et vous-même?
Allah yberk fik, merci à vous. Bonjour pour docteur. Et merci
bonjour
pour le sujet que vous avez choisi.
Aïchek, merci. Chérif, vous êtes en direct dans l'émission. Posez
d'accord
votre question.
Alors, la question est claire. J'ai une petite fille, elle a de 4 ans.
Oui.
Et aussi, elle a le thème de tuberculose au niveau de dos.
D'accord.
Comment, je ne sais pas. C'est-à-dire, j'aimerais bien que je trouve des informations autour de cette situation-là.
C'est-à-dire, vous savez, ce n'est pas une consultation. Le médecin n'a pas vu votre...
En fait, pour l'instant, c'est-à-dire, elle a bien rétabli.
Très
au niveau
bien
de l'hôpital d'Ouira, alhamdoulilah.
La colonne vertébrale, peut-être.
Interrogé par rapport le cas de ma fille. Voilà.
Oui, mais c'est difficile puisque le médecin n'a pas vu votre fille, donc je ne sais pas. Mais elle est prise en charge au niveau de Douira.
Alhamdoulilah. Mais juste pour avoir d'autres informations.
Il n'y a pas de problème. Vous restez avec nous, on va vous répondre pour voir un peu.
Vous
avez.
Oui. Pour la suite.
Merci beaucoup. Merci, Ashrif. Merci aux auditeurs qui nous contactent au 021 48 15 15. Nous parlons de la tuberculose aujourd'hui, puisque la journée mondiale, on l'a fêtée ces jours-ci, le 24 mars, qui coïncide avec la découverte de la tuberculose. Donc, bacille de Koch, par M. Koch, justement, d'où l'appellation de, du bacille de Koch. Voilà. Donc, oui, Dr Hamedi, vous vouliez rebondir peut-être
Oui, merci beaucoup. Moi, je. Mais avant tout.
Directrice de la prévention au ministère de la Santé. Oui.
Je voulais revenir sur quelque chose qui est très importante pour le programme. C'est que les personnes qui sont atteintes de maladies, il faudrait que, parce que souvent, il y a le pneumologue, moi je suis ravie de partager le plateau avec Dr Brahim Djelloul, c'est parce que quand le médecin, il fait le diagnostic, il doit faire l'enquête autour du cas. Et souvent, quand le médecin, il parle de l'enquête autour du cas, les gens, ils refusent. C'est-à-dire, les membres de la famille refusent. Et tu viens de parler de la prévention qui est très, très importante. C'est vrai qu'il y a la vaccination à la naissance, mais il y a aussi la prévention quand on a quelqu'un qui est atteint de la maladie, que l'entourage, que les membres de la famille aussi. Il y a des conseils du médecin, du pneumologue ou du médecin de SCTMR qui conseille le malade pour se prendre en charge, pour être isolé les premiers temps, pour ne pas transmettre la maladie à sa famille.
Il y a une réticence de la part de l'entourage.
Par rapport à l'enquête. Et il faut dire que l'enquête, ce n'est pas pour déranger les personnes, mais c'est pour les protéger, pour que ces personnes, parce qu'on sait très bien que la maladie, effectivement, on guérit de la maladie, mais il faut l'observance, parce que c'est ça qui est très, très importante. Il faudrait que la personne qui est sous traitement, elle doit respecter les doses, elle doit respecter les rendez-vous, elle doit poser toutes les questions à son médecin traitant, mais elle doit aussi respecter de ne pas, aussi dans les premiers temps, d'être en contact avec les personnes, c'est-à-dire elle doit porter le masque pour ne pas transmettre, mais aussi de dire quels sont les membres de la famille ou les personnes qui travaillent avec elle pour que l'enquête se fasse et que les personnes qui sont en contact direct, ils voient le médecin, c'est nécessaire de les mettre sous traitement. C'est vrai que le traitement est lourd et il est long, mais il protège contre la maladie, contre les complications.
Pour casser la chaîne de transmission, vous avez bien fait de préciser ce détail. Nous allons prendre Dalila qui est au bout du fil. Elle nous contacte depuis Hydra. Dalila, bonjour.
Bonjour madame, bonjour à mesdames les professeurs qui sont avec vous. J'ai une petite question qui relève justement du sujet d'aujourd'hui. J'ai contracté le bacille en étant très très jeune. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, dans les écoles, on faisait la QTI. Ma QTI, elle a toujours été négative. Ensuite, un jour, elle a été positive et les médecins se sont posé la question pourquoi. Effectivement, j'étais en vacances chez ma grand-tante qui avait la tuberculose. Moi, je ne savais pas, j'avais 9 ans ou 10 ans. Et j'ai contracté le BK. Et quand je commençais à tousser et que la QTI était positive, les médecins m'ont orienté vers
pneumologue. Oui.
Et il a confirmé à ma mère, qui était quand même dans le domaine médical, elle était sage-femme, ils lui ont confirmé qu'effectivement, j'ai contracté le bacille et que mon corps avait bien réagi. Mm-hmm. Je n'avais que des toux, mais des toux qui se manifestaient à l'entrée de l'hiver. J'étais d'ailleurs le baromètre de la famille. Quand je commençais à tousser, ça veut dire que l'hiver...
Ça remonte à combien, dites-nous, Dalila?
Oh là là, ça remonte à très longtemps. Oui, j'imagine. Ça dans les années 60. Hein.
Ah oui, et vous avez quel âge aujourd'hui?
J'ai 77 ans.
La Ribère, vous avez une voix jeune, hein, quand même.
Merci, c'est peut-être le BK. Bref.
Ça renforce.
Ah oui. Donc, je vais vous dire, ma question essentielle, c'est qu'à la suite d'un trauma, j'ai développé une tumeur au niveau pelvien. Je me suis projetée vers une voiture violemment et j'ai laissé traîner ça qui s'est transformé en... Bref, j'ai suivi la chimio, etc. J'ai guéri totalement. Mais il y a eu un autre problème qui s'est avéré au niveau thoraxique dans le sternum.
Alors ici, les médecins, ils doutaient que c'était peut-être une métastase qui a migré vers les poumons. Et finalement, c'était pas ça. Une fois que je suis partie à Londres et j'ai fait des examens plus approfondis, etc., ils m'ont dit que ça n'avait rien à voir, que tout ce qui était pelvien était guéri totalement, il n'y avait aucune séquelle, rien du tout. Par contre, il y a un nodule dû à mon ancienne bronchite.
Oui, c'est les séquelles, oui, les séquelles.
Voilà. Et là, maintenant, moi, je vais poser la question au professeur, parce que je suis pas repartie encore à Londres pour savoir exactement la cause à effet. Est-ce que c'est la chimio qui a réveillé ce nodule du sternum, ou elle est venue en même temps que ce que j'avais dans la zone pelvienne?
Merci pour votre question. Écoutez, vous avez bien dit qu'on vous a bien précisé que finalement, que ce que vous avez vu, ce que vous aviez au niveau pelvien, la tumeur, vous êtes guéri de ça. Hein,
parce guéri que, totalement.
Oui, totalement. Il y a la rémission, avant parler de 5 ans, maintenant on parle de plus. Mais j'imagine que ça fait très longtemps et on n'en parle plus, hein, je pense. Hein. Mais maintenant, si c'est ça...
Non,
si,
ça fait
c'est
pas longtemps que j'ai eu mon incident. Hein, c'était en 2022-2023.
Ah,
eu le trauma.
D'accord.
Et j'étais guérie. Quand j'ai vu qu'ici le diagnostic n'était pas totalement certain, malgré la biopsie qu'on m'a fait pulmonaire, etc., j'ai préféré, c'est mes enfants plus ou moins qui ont préféré me transférer.
Oui, mais écoutez, vous savez, on peut très bien le savoir ici, dans nos hôpitaux, vous faites une biopsie et puis on n'en parle plus.
Ah non, non. J'ai fait la biopsie,
oui.
Je ne suis pas prête à la refaire.
Oui, oui.
J'ai fait une biopsie, on m'a donné un traitement guérison.
Mais
totale,
on vous a dit que c'était...
Alhamdoulilah.
Merci beaucoup, Dalila. On essaiera de vous répondre, bien qu'on n'a pas les données,
voilà.
Toutes les données. Hein.
Ah.
C'est ça, on n'a pas toutes les données pour savoir s'il y a une relation de cause à effet. Merci aux auditeurs qui nous ont contactés. Merci. Nous allons quand même essayer de répondre justement aux préoccupations des personnes qui nous écoutent depuis ce matin, hein, pour parler aujourd'hui de la tuberculose, puisque c'est le thème. Et pour dire aujourd'hui, alors je voulais parler de prévention. Docteur Hamadi, vous avez parlé de programme, vous avez bien fait de parler. Ça reste quand même une maladie qu'on stigmatise, hein, souvent. Hein. Qu'on stigmatise, on a très peur, et donc dès qu'on sait que... Mais il faut en parler, ça reste une maladie honteuse aussi, hein, qu'on ne veuille pas,
oui.
Docteur Hamadi. Hein.
C'est la maladie des pauvres,
oui.
C'est la raison pour laquelle elle est plus stigmatisée. Je pense que c'est le milieu, parce que par le passé, c'est un milieu qui est
précaire,
défavorable,
précaire. Il y a une
promiscuité,
chez qui
on a,
oui.
Voilà. Mais non, toute personne peut contracter
Absolument.
La maladie, parce qu'il suffit d'être dans un milieu où il y a une personne qui est porteuse et qui peut contaminer, et à ce moment-là, personne au milieu de travail, à la maison, comme elle vient de nous dire chez sa tante, elle s'est déplacée,
oui,
une
oui.
personne qui est malade, et qu'elle a contracté la maladie. Je pense qu'il faut dépasser cela. Il faut garder en tête que nous sommes un pays où la tuberculose existe.
C'est vieux.
Elle existe
oui.
encore.
Oui.
Nous enregistrons près de 5000 cas, nouveaux cas. De tuberculose contagieuse. C'est-à-dire que la personne peut transmettre la maladie, peut contaminer son entourage. Mais la raison pour laquelle il faut consulter, il faut respecter son traitement, il faut éviter le contact avec les personnes pour ne pas transmettre. L'autre point qui est très important, la dame qui vient de nous appeler, moi je remercie, qui s'intéresse à la question, qui veulent bien comprendre, qu'il faut se dire, il y a des médecins qui sont là pour poser le diagnostic. C'est vrai qu'on ne peut pas, lors d'une... Même si on a la pneumo avec nous, ça c'est la tuberculose extra-pulmonaire. Maintenant, on a 2/3 de tuberculose extra-pulmonaire. Donc, on a inversé la tendance, oui. Et c'est très bien pour nous. C'est, oui. C'est-à-dire ça, on se félicite parce que par rapport à l'État, par rapport à tous nos médecins qui font un travail merveilleux sur le terrain, par rapport à nos microscopistes qui font le diagnostic, parce que c'est grâce à eux qu'on arrive à connaître la maladie, que la personne elle est porteuse, mais les extrapulmonaires, c'est, ce sont des pathologies qui sont non spécifique, qu'on n'arrive pas à détecter au début. Il y a un diagnostic différentiel, ça peut être une tumeur, ça peut être un cancer, ça peut être autre chose, autre maladie qui peut...
Ça aussi, ça fait peur, docteur, non?
Ça fait... C'est pas ça fait peur, il faut poser le diagnostic à temps et il faut se prendre en charge. Mmh. Et donc, là, c'est une... c'est d'où la nécessité d'une collaboration, d'une coordination multidisciplinaire. Ça veut dire que le pneumologue travaille en étroite collaboration avec le médecin d'organes, j'allais dire l'ORL par rapport au ganglion, avec
le néphrologue
et l'orthopédiste, etc. Il vient de nous dire mal de pote chez l'enfant, et je pense que pour le mal de pote, il est très bien maîtrisé. Maintenant, je pense qu'on a une expertise en la matière. La maladie, elle est maîtrisée, mais il faut poser le diagnostic, tout simplement.
Oui.
Et je pense qu'on a les moyens. On a les moyens maintenant pour poser le diagnostic. On a les médicaments et donc on peut. La maladie, elle est bien contrôlée. Et
il faut sensibiliser aussi, docteur Hamoutaine, vous qui recevez beaucoup de femmes chez vous dans votre cabinet à Ain Defla. Vous avez fait un travail extraordinaire depuis des années puisque vous y êtes installée pendant la décennie noire et vous avez incité les femmes à faire de l'activité physique, à faire beaucoup de choses. Parce que moi, je pense que pour remonter l'immunité, c'est important à l'immunité, on n'y pense pas, mais l'immunité peut nous protéger de beaucoup de pathologies. Notre microbiote aussi peut nous protéger par rapport à ce qu'on consomme, etc.
La méditation aussi.
Oui, il faut.
C'est des
armes. La respiration, hein, vous savez, c'est des nouvelles donnes aussi qu'on donne justement aujourd'hui pour bien respirer, expirer. Ça, c'est quelques minutes qu'on peut prendre de notre temps, 5 minutes par jour, et ça fait énormément de bien à notre corps, oui.
Je voulais rappeler que le corona, on a très bien réagi en Algérie. Le ministère de la Santé a pris des décisions qui étaient magnifiques. Oui. Je me rappelle très bien de toutes ces télévisions étrangères qui disaient « L'Algérie, c'est une catastrophe pour le corona ». Et cette éducation et tout ce qui a été les journées de sensibilisation, alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. Et maintenant, les patients, dès qu'il y a... Alors, le problème, c'est qu'ils viennent, avec... pas des masques. Dès qu'ils ont peur de rester dans la salle d'attente, pourtant j'ai une salle d'attente qui est très grande, très aérée, très importante chez les médecins, parce qu'elle est une personne malade, elle tousse, c'est vraiment des salles d'attente toutes petites, on contamine, la climatisation qui, d'ailleurs, et donc elles ont ces habitudes et c'est une chose qui est très bien. Les enfants protègent leurs parents en leur disant « Ah, il y a du monde, mais je pense que la bavette ne protège pas beaucoup, c'est surtout le masque.
Oui, docteur...
Quand c'est l'hiver et que tout le monde est dans une salle d'attente.
Vous qui êtes pneumo, alors comment doit-on se comporter, justement? Alors, quand on parle de prévention,
les gens toussent,
c'est d'abord un comportement.
Oui.
C'est le comportement de chacun d'entre nous. Parce que la prévention, on peut la faire aussi à titre individuel, il faut le dire, pour nous protéger.
Je crois que maintenant, la population générale est relativement éduquée. Éduquée par rapport à ça. Donc, moi, en tout cas, dans ma salle d'attente, des gens qui toussent se mettent le masque. Bah, bien évidemment, ça, je ne parle pas des tuberculeux, parce que les tuberculeux, quand on les reçoit, on les met séparément. On ne va pas les mettre dans salle d'attente que des personnes qui n'ont pas la tuberculose. Donc, pour revenir à la prévention, j'avais parlé de la vaccination. C'est le diagnostic précoce et la mise sous traitement rapide des cas de tuberculose pulmonaire contagieuse. Et bien évidemment, notre première consultation avec un patient tuberculeux, elle dure quasiment une heure parce qu'il faut qu'on explique la maladie. Et donc, quand on explique la maladie, on va expliquer les modalités de transmission. Donc, le patient le connaît, il sait comment il peut être à l'origine de la contamination
des autres.
Malheureusement, la contamination souvent se fait avant que le patient ne soit arrivé chez nous, parce qu'il est symptomatique depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc, j'explique ça aussi à mon patient. Et sur cet élément, je rebondis sur ce qu'on appelle la fiche sociale, c'est-à-dire qu'on va prendre le nom, l'âge de toutes les personnes qui ont été en contact proche. Donc, par exemple, suite à l'instruction de 2021, tous les enfants de moins de 5 ans qui ont été en contact avec le patient tuberculeux vont être, après avoir éliminé bien évidemment une tuberculose maladie, on s'assure qu'il n'est pas en train de faire une tuberculose, tous vont être mis sous traitement qu'on appelle une chimioprophylaxie, c'est-à-dire c'est un traitement préventif. Donc on considère, sans se poser de questions, qu'il a été en contact et que le BKA est rentré dans son organisme.
C'est une forme de prévention.
On va le prévenir. Après, pour les autres types de populations, on va avoir un algorithme. On va travailler avec la radiographie pour éliminer une tuberculose maladie, avec l'intradermoréaction pour voir quelle est la réponse. Et dans certains cas, selon que l'IDR à la tuberculine est positive ou non, on va mettre certains patients sous chimioprophylaxie. D'autres sont considérés comme étant plus ou moins sauvés, entre parenthèses, mais on va dire à la famille d'être toujours vigilant. On va aussi contacter, bien évidemment, quand il s'agit d'enfants, la prévention, le service de prévention, pour qu'une enquête soit faite dans la classe de l'élève qui fait une tuberculose. Voilà. Donc, tout ça, c'est dans le cadre de la prévention. Et au sein de la famille, on va rappeler que le patient qui est tuberculeux, il ne faut pas le mettre en isolement total, parce que l'impact psychologique...
Oui, c'est une forme de stigmatisation, oui.
Qu'il peut continuer à vivre avec la famille, mais il faut qu'il porte son masque, il faut aérer son domicile et la chambre où il dort. Il faut respecter les mesures d'hygiène habituelles. Voilà. Donc, on parle beaucoup justement du non-isolement du patient, parce qu'autrefois, c'était vécu comme un drame. Et comme vous dites, c'est honteux. Oui. Donc, on va dire bien évidemment que ça doit rester dans la petite famille. On n'a pas besoin de dire à tout le monde, parce que c'est personnel, mais que ce n'est pas si dramatique que ça, et que ça ne touche pas que les personnes qui ont des conditions de vie difficiles, parce que c'est ça aussi qui est perçu, on n'a pas les moyens, on est défavorisé. Donc non, ça touche toutes les couches sociales aujourd'hui.
Tout à fait. Un dernier mot peut-être, docteur Hamadi, sur la stratégie aujourd'hui, puisque il y a le slogan de l'OMS cette année. Donc le slogan retenu par l'OMS, c'est que nous pouvons mettre fin justement à la tuberculose, nous pouvons justement l'éradiquer. Et il parle de 2035 comme objectif, un objectif osé.
Non, je pense que c'est aussi la stratégie, c'est le slogan national. Hein. Ensemble, nous pouvons mettre fin à la tuberculose. Effectivement, quand on regarde les chiffres, on est sur la bonne voie. Sur la bonne voie, il y a encore des choses à faire. Il faut renforcer la formation à notre niveau, il faut renforcer, c'est-à-dire pour nos jeunes médecins qui n'ont pas connu la tuberculose et qui arrivent, donc on les forme. On a amélioré le diagnostic, parce que le diagnostic maintenant, on arrive à diagnostiquer assez rapidement, parce qu'avant ça prenait un peu plus de temps. Je pense qu'avec aussi l'engagement de tous, parce que si j'ose dire... nous adhérons, c'est notre engagement pour les ODD, pour l'atteinte des objectifs de développement durable, et nous adhérons à la stratégie mondiale d'élimination. Donc, avec ce que nous avons mis en place, avec, j'allais dire, un plan national stratégique de prévention et de lutte contre la tuberculose, qui est autour de la communication, autour de la recherche opérationnelle, autour de la formation et du diagnostic, on arrive à atteindre notre objectif, Inch'Allah, d'ici 2030, mais en tant que problème de santé publique. Oui. Ça veut dire qu'on réduit la mortalité et la morbidité liées à cette maladie.
Très bien. Merci, Dr. Hamadien. Dernier mot, Dr. Hamouten, en tant qu'endocrino, qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes diabétiques, aux personnes qui ont une immunité quand même assez réduite, qui peut favoriser la contraction de cette maladie?
Justement, ça fait partie de la prévention. J'ai toujours fait de la prévention. Donc, tout patient, je dis d'abord aux personnes âgées d'éviter tous les gens qui toussent, c'est-à-dire prendre tout ce qui, la protection qu'il faut, l'hygiène des mains, savoir tousser, et surtout, entre parenthèses, l'Amra et le Hajj, ils reviennent, les gens reviennent parce qu'ils laissent des climatisations, ils portent pas de masque, ils viennent avec des infections, donc ils nous ramènent des virus, parce qu'il y a un brassage de gens, Filmaka, et ça nous ramène des microbes chez nous.
C'est pour ça qu'il faut, faire attention. Et quand on est malade, on s'isole un petit peu. Merci, docteur Hamouten. Docteur Brahim Jelloul, non composé.
Oui. Alors, moi, je dis que la lutte anti-tuberculose, c'est l'affaire de plusieurs intervenants. Ouais. Que je remercie parce que j'ai rencontré des gens formidables dans cette lutte, aussi bien dans les SCTMR, les responsables des SCTMR, mes collègues au niveau du SCTMR, en parlant des microscopistes, des réceptionnistes, des personnes qui donnent les médicaments.
Mais c'est quoi le point noir sur lequel il faut insister aujourd'hui, peut-être
Alors, c'est le travail collaboratif, en fait.
Oui, il faut travailler ensemble.
Voilà, Et se faire confiance les uns les autres et s'écouter les uns les autres pour pouvoir progresser et en faire profiter les patients.
Oui, les patients, car les patients, quand même, c'est les premières victimes. Et puis, il faut faire un travail sur soi-même et se protéger. Les gestes barrières sont toujours d'actualité et devraient être d'actualité.
Sans oublier tous les praticiens qui sont au front.
Oui, et il faut dire aussi qu'il y a des femmes qui continuent à coucher justement chez elles, hein, dans les zones enclavées, qui échappent.
Très, très peu.
Très peu, quand
très
même.
Peu, non. C'est franchement ça.
Qui peuvent échapper peut-être à la vaccination, non?
Non, parce que juste après, ils sont rattrapés. Vous savez qu'on fait, des campagnes de rattrapage, et donc des campagnes de rattrapage qui sont à travers tout le territoire, y compris dans les zones éparses et dans
Très bien. Voilà. Le BCG protège contre les formes graves, mais ne protège pas contre la tuberculose. Attention, donc, c'est à vous de vous protéger. Cette émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie. Merci à Jawida, qui a été à la réalisation aujourd'hui. Merci à Krimo. Merci à Tahar. Célia Labou vous accompagne au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver le samedi prochain, même à ma station. Au revoir.